Ma communication se rapproche de celle, sûrement, donc de Madame Virginie, parce que portant sur un pays qui a pratiquement une histoire commune avec le Cameroun, parce que c'était une ancienne colonie allemande. Et puis, c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale que les Français et les Britanniques ont dépecé leur butin pour en faire l'un, donc un territoire intégré à la Gold Coast, et l'autre, le Togo français.
Alors, la République du Togo,
je crois que c'est bon. À l'instar de la France, dispose d'un corps de gendarmerie nationale mis sous tutelle du ministère chargé de la Défense. Il est cependant placé pour emploi auprès du ministre de la Sécurité, qui est équivalent donc du ministère de l'Intérieur français, et du ministre de la Justice pour l'exécution des missions relevant de leurs attributions respectives. Et la gendarmerie nationale togolaise est chargée de veiller à la sûreté publique, d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. À ce titre, la gendarmerie nationale exerce, à l'instar de la gendarmerie française, les missions traditionnelles de police judiciaire, administrative et militaire sur l'ensemble du territoire national. Et cette similitude de mission n'est pas pur hasard. Elle est dans la ligne droite de l'héritage colonial et dans la continuité des liens entretenus avec la gendarmerie métropolitaine qui assure toujours, dans le cadre de la coopération, encadrement et formation à sa filleule, la gendarmerie togolaise. Cette intimité de corps, maintenue au-delà de la proclamation de l'indépendance, laisse supposer une complicité étroite qui interpelle le regard de l'historien sur le rôle de la gendarmerie nationale togolaise et par-delà de la gendarmerie française à divers moments de l'évolution politique du Togo. Il faut dire que, parlant de l'État et la gendarmerie est une force, une institution qui accompagne en fait l'État et qui fait sa force parce que elle maintient l'ordre pour que l'État ou les institutions étatiques vivent. Alors, la présente communication a pour objet d'analyser comment les transferts de compétences entre les deux gendarmeries françaises et togolaises se sont effectués ou non au moment de l'indépendance, de tenter d'établir les niveaux de responsabilité dans la construction de l'État entre 1956 et 67. Pour ce faire, cette étude est fondée essentiellement sur un croisement de témoignages d'acteurs de l'époque, encore vivants avec les archives administratives disponibles, ainsi que sur l'analyse des tests institutionnels régissant la gendarmerie en lien avec l'évolution politique du Togo entre les périodes susindiquées, marquées par quatre événements majeurs qui engagent la gendarmerie en tant qu'institution. Il s'agit donc de la proclamation de la République autonome du Togo en 56, de la proclamation de l'indépendance en 60, du coup d'État sanglant de janvier 63 et du renversement de la Deuxième République togolaise en janvier 67. Alors, la présente communication se contente d'exposer le contexte, c'est-à-dire le cadre dans lequel est née et a évolué la gendarmerie togolaise, de lister quelques interrogations et de les analyser succinctement sans se prononcer définitivement sur leur portée, étant donné l'indisponibilité des archives au Togo, parce que la gendarmerie, très serrée, ne laisse pas voir ses archives. Peut-être ces archives, on peut les trouver à Paris, mais pas à Lomé. Peut-être qu'elles existent, mais où ? Et il faut avoir des autorisations spéciales. Alors, le contexte de naissance et évolution de la gendarmerie nationale togolaise. Alors, le territoire aujourd'hui togolais est une partie du Togo allemand, qui est construit à partir de la prouesse et de l'explorateur allemand Gustave Nachtigal, et qui a signé un traité de protectorat à l'appel, donc, des commerçants allemands qui étaient sur place pour faire un peu mettre pièce à des chefs locaux qui appelaient les Anglais à occuper le Togo. Vous voyez déjà que nous avons une situation particulière. Donc, le Togo, petit territoire avec à côté la Gold Coast britannique, et pas très loin, le Nigeria, où se trouvent les Anglais qui auraient bien aimé relier la Gold Coast avec le Nigeria pour un grand territoire dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour l'administration de ce territoire, les Allemands ont mis en place une police locale, police troupée, composée de 500 éléments au plus fort moment de leur présence au Togo en 14. Et l'encadrement était assuré par 8 officiers et sous-officiers. Donc, pour une population totale d'environ 1 million d'habitants, Les éléments de la troupe étaient pour beaucoup des mercenaires. On parlait aujourd'hui donc de l'origine donc de ces armées. C'était des mercenaires à Oussa et autres à l'époque allemande. Et à l'époque française, on a préféré donc un groupe ethnique, notamment de la partie septentrionale, parce que, soi-disant, ayant donc des traditions guerrières, ce qui va avoir des conséquences, bien sûr, dans la gestion. Alors, ceux-ci n'ont pas malheureusement été d'un grand secours lors de la guerre en août 14. Ils ont fui pour la plupart devant l'assaut des troupes franco-britanniques. Néanmoins, les populations ont gardé le souvenir de leur brutalité. Avec l'occupation franco-britannique, puis le partage du territoire, une nouvelle forme d'organisation policière se mit en place et cadrée cette fois par les tests internationaux, notamment les règles internationales régissant les territoires occupés à la suite d'une guerre, donc la Convention de Genève, puis le test réglementant le mandat confié aux vainqueurs à l'issue du traité de Versailles. Ce dernier stipule bien en son article 3 que le mandataire ne devra établir sur le territoire aucune base militaire ou navale, ni édifier aucune fortification, ni organiser aucune force militaire indigène, sauf pour assurer la police locale et la défense du territoire. Toutefois, les forces ainsi levées peuvent, en cas de guerre générale, être utilisées pour repousser une agression ou pour la défense du territoire en dehors de la région soumise au mandat. Article ambigu, qui suppose donc que le mandataire ne pouvait pas créer une force armée localement par recrutement des indigènes. En même temps, il donne l'autorisation d'utiliser cette force pour repousser une agression ou pour la défense du territoire, même en dehors de la région soumise au mandat. D'ailleurs, le premier recrutement et le seul d'ailleurs officiel à être fait au Togo l'a été en 1944, au moment fort donc de l'effort de guerre. Les Togolais qui se sont engagés dans l'armée française l'ont été dans les pays voisins, notamment donc celui qui va être chef d'État du Togo, et général Eyadema, donc le sergent Eyadema, il s'est fait recruter au Dahomey voisin. Alors, la création de la gendarmerie au Togo remonte en fait à l'époque coloniale. Elle est créée le 17 septembre 1942, donc en pleine guerre, et faisait alors partie de la gendarmerie de l'Afrique de l'Ouest occidentale française. Ce n'est que le 3 août 1956 qu'un arrêté réglementant les conditions d'emploi de la gendarmerie fonde véritablement la gendarmerie du Togo suite à la proclamation de la République autonome. Comment peut-on avoir une République autonome dans la Grande République française? Et cette République autonome, sur quoi va-t-elle se fonder? Alors se pose la question donc de ce que les gens ont appelé la nationalisation de la gendarmerie et autres. Alors, comment cela s'est réglé? Eh bien, et le 3 août 56, un arrêté réglementant les conditions d'emploi de la gendarmerie fonde une gendarmerie suite à la proclamation de la République autonome. Son organisation administrative est réglée par le décret signé le 22 août 61 et celui du 31 janvier 63 intégra à l'armée l'embryon de gendarmerie constitué par la garde nationale. Elle a alors fonctionné jusqu'en octobre 95 sur ce modèle au cours de laquelle s'est dotée sa structure organisationnelle actuelle. Elle est articulée en groupements et brigades implantées sur toute l'étendue du territoire national, comme cela se fait en France. Sa mission est celle d'évoluer à toutes les gendarmeries du monde. Sécurité intérieure, protection des personnes et des biens, surveillance des routes et des voies de communication, participation au secours des populations sinistrées. Sans doute, opération qui séduit les populations et qui fait qu'ils adhèrent donc à l'action. En clair, la gendarmerie au Togo est une extension de la gendarmerie française depuis sa création institutionnelle en 1942. Cette situation a perduré jusqu'à la veille de la proclamation du nouveau statut conférant au Togo la qualité de république autonome, avec donc l'application de la loi Gaston Defferre. Alors, c'est à partir de cet arrêté que ce corps prenait son autonomie vis-à-vis de la gendarmerie française, encore que son commandement est resté assuré par les officiers de la gendarmerie française, même au-delà de l'indépendance. Le nouvel État togolais avait donc nécessité de la prise en charge de la gendarmerie. Et il me reste 5-6 minutes. Oui, je vais y aller. Alors, le vrai problème, c'est qu'il y a un hic qui demeure donc dans la capacité de ce corps à défendre les institutions nationales, notamment à assurer la protection des citoyens et l'ordre constitutionnel. En bref, à jouer son rôle de garde républicaine. Le 13 janvier 63. Le jour fatal pour la première république du Togo, où était la gendarmerie du... Alors, la question se pose, où était la gendarmerie du Togo? se résumait-elle aux deux policiers de façon devant le domicile du chef de l'État la nuit du 12 au 13 janvier? Ceux-ci n'avaient pour toute arme de défense qu'un pistolet et, selon des témoignages, des cartouches que détenaient les policiers ne correspondent pas au calibre de leurs armes. Comment d'autres armes ont pu quitter le camp militaire à l'insu du commandant de la gendarmerie, le français donc Georges Métrier? Très curieusement, au lendemain du putsch, les nouvelles autorités ont pris l'arrêté donc du 31 janvier 63, l'intégration de la gendarmerie à l'armée togolaise, ce qui suppose que ce corps, de par sa mission, disposait d'une autonomie qui venait de lui être enlevée. À quel bénéfice? La suite nous le dira. En 65, donc, un nouveau décret consacre la fusion de la gendarmerie mobile et de la gendarmerie territoriale en gendarmerie nationale togolaise. Et c'est en 95 que nous avons la structure actuelle. Alors, toute la question que nous posons, c'est par rapport donc à la gendarmerie et son rôle dans la constitution de l'État. C'est vrai que, conformément à ses missions traditionnelles, la gendarmerie est garante de l'exécution du respect des lois de la République, et c'est en cela qu'elle joue le rôle de police judiciaire. À ces différents titres, la gendarmerie est garante de la loi fondamentale, donc protectrice de la constitution et des personnes qui l'incarnent. Ainsi se comprend la tâche de garde républicaine que jouent les gendarmes. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les républiques africaines, dont le Togo, où la protection du chef de l'État est confiée à une force militaire spéciale, le plus souvent suréquipée au lieu et place de la gendarmerie. Comment ce processus de dessaisissement de la gendarmerie dans l'accomplissement de l'État s'est-il donc historiquement opéré au Togo et, je dirais, dans les autres pays? Alors, quelle force de sécurité pour la République autonome? Ce sont donc des questions que je me pose. Ensuite, la proclamation de l'indépendance et le transfert des forces de gendarmerie, est-ce qu'il y a une force de sécurité ou bien une armée nationale? Parce que ce que l'on constate finalement, c'est que la gendarmerie progressivement est devenue l'appendice de l'armée nationale, au point qu'elle n'assume plus ses fonctions. Et depuis que les ministères de la sécurité ont été créés, on a toujours, tout en étant un gouvernement civil, on a toujours à la tête donc du ministère de la sécurité soit un gendarme, soit un militaire. Ce qui pose effectivement donc le problème de distinction de l'armée et de la gendarmerie, mais d'une gendarmerie, donc, à la solde de l'armée. Alors, je vais rapidement à la conclusion. Au Togo, au regard du fonctionnement de la gendarmerie et de son commandement et des missions de la gendarmerie, l'héritage de la gendarmerie républicaine, incarné par l'héritage colonial, est-il pérennisé ou non? La gendarmerie nationale est-elle républicaine à l'instar de son parrain, la gendarmerie française? Il semble qu'une nouvelle tradition s'est progressivement mise en place avec la contestation récurrente du pouvoir d'État. Celle-ci se traduit par la confusion entre forces armées et gendarmerie, avec la nomination, comme je l'ai dit tout à l'heure, récurrente au portefeuille de la sécurité des officiers supérieurs de la gendarmerie de l'armée. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans après les indépendances, les gendarmeries des pays africains, anciennes colonies ou territoires sous tutelle française, restent intimement liées à leurs parrains de la métropole. Ils sont dépendants pour la formation de leurs officiers, de leur armement. Ces incontances vont également jusqu'aux échanges d'informations. Tout ceci est perpétué dans les accords de coopération bilatéraux. Comment comprendre qu'un instrument de souveraineté comme la gendarmerie dans un État soit aussi dépendant? Dans cette situation, jusqu'à quel degré les gendarmeries nationales peuvent-elles être un gage de stabilité pour les États africains ou source d'instabilité? Autrement dit, où doit-on mettre la ligne entre la légalité et la légitimité dans l'action des gendarmes? Tout cela dépend, nous semble-t-il, de la qualité de la formation des gendarmes et aussi du niveau de transfert de compétences entre la gendarmerie parraine et ses filleules d'Afrique. Je vous remercie.